tout ce spectacle. Tout ce spectacle, l'actualité du spectacle vivant à Toulouse et dans la région.
Quelques mesures de la sonate pour violon et piano de Marguerite Canal, compositrice toulousaine du début du XXe siècle. La deuxième femme à recevoir le Grand Prix de Rome en composition musicale, et c'était en 1920. 103 ans plus tard, ce mercredi 5 juin à 21h, dans sa ville, à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines, la violoniste Clara Danchin et la pianiste Anna Japovna du duo Alma rendront hommage à la compositrice et feront entendre sa sonate pour violon et piano. Les femmes compositrices, mais aussi les femmes artistes, nous disent-elles, sont les grandes oubliées de l'histoire. Aussi, dans un programme intitulé « Créatrice », elles donneront également des œuvres de Clara Schumann, Mélanie Bonis et Amy Beach. Mais ce ne sera pas tout. À leur côté, sur scène, l'artiste plasticienne, sculpteur et dessinatrice Sandrine Foller, qui explore depuis quelques années le thème transgénérationnel féminin, en instantané fera dialoguer art plastique et musique. La semaine dernière, pour essayer de comprendre, de saisir un peu de l'indicible qui va se jouer ce soir-là sur la scène, je la rencontrais dans son atelier au cœur de Toulouse, là où tout commence.
Mais oui, parce que c'est le Creuset, et puis vous étiez venu il y a quelques années, mais ce lieu, en fait, je me suis installée à Toulouse parce que ce lieu. D'abord parce que ce lieu aussi, comment dirais-je, a une histoire, et c'est l'histoire aussi de Christian Schmidt. C'était un peintre connu et reconnu de Toulouse, enfin qui avait en tout cas, comment dirais-je, illuminait, il ne brillait pas, mais il a illuminé, fut un temps, en fait, l'artistique et la culture toulousaine.
Éclairé,
merci, je cherchais le mot, justement. Et, mais c'est exactement ça. Et ça a été son atelier pendant 20 ans. Et donc, ce lieu a une histoire, parce que ça fait 40 ans que ce lieu est un lieu de création. Donc moi, j'ai eu la chance et l'opportunité et aussi le privilège d'habiter ce lieu. Là aussi, il y a aussi une responsabilité.
Si on croit à la mémoire des lieux.
Ce qui est mon cas. C'est mon cas. Les lieux ont une mémoire et je suis convaincue que, après le décès de M. Schmidt en 2003, donc il a été ici de 1983 à 2003, le lieu est resté vide pendant près d'un an et demi, deux ans. Et personne n'en voulait. Les gens visitaient, etc. Et je suis convaincue que le lieu, en fait, il y avait une énergie. Et l'énergie était, il faut que ce lieu reste un lieu de transmission et de création. Et je suis arrivée, et mon installation à Toulouse, parce que le 9 rue du Collège de Foix. Vraiment. Donc ça se passe ici. Évidemment, c'est là où j'enseigne. Entre autres choses, j'enseigne aussi à Supaéro, à l'ISAE, dans le cadre de la formation agriculture de Supaéro. Et ça fait 13 ans, révolus, que j'enseigne là-bas, donc toujours la transmission à Supaéro et puis ici à mon atelier. Et ici, c'est là aussi où j'œuvre, où je travaille, où je cherche. Et parfois, je trouve des trucs.
Qui êtes-vous, Sandrine?
Eh bien, qui suis-je? C'est une question que je ne finis pas de me poser. Ce qui est certain, c'est que je suis une femme de mon temps.
D'ailleurs, sur votre site, j'ai vu artiste, plasticienne, sculpteur et pas sculptrice.
Oui.
Ça m'a interpellée.
Oui, je le mets. Alors, on m'a souvent posé la question. J'exerce le métier d'artiste sculpteur.
Ouais.
Le métier. Et c'est vrai que, alors, je pense que c'est lié à ma propre parcours et ma propre perception et définition de moi-même. Je crois que j'ai très envie aussi d'être aussi ce masculin, ce féminin et ce masculin. J'ai commencé la sculpture, j'étais tailleur sur bois et j'ai un peu taillé la pierre. Je ne dis pas que c'est du domaine du masculin, pas du tout. Il faut une force de conviction. C'est une question de force de conviction. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai 54 ans et je viens d'une génération, en fait, où, oui, il y avait déjà des femmes artistes, des femmes sculpteurs qui avaient tracé la route bien avant moi, mais les choses ont... Enfin, comment dirais-je? Quand j'ai commencé la sculpture, on me dit, il était évident que sur la dizaine d'élèves, nous étions une promotion de 10 élèves. Les femmes, on nous regardait avec... Il y avait déjà, je crois qu'on est, on devait être 4 filles sur 10, ce qui était déjà énorme.
Et c'était où, le
cité ? C'était à Auray, en Bretagne, dans le Morbihan. Et donc, et je préparais à l'époque un CAP de sculpteur ornemaniste sur bois. Je suis passée par la petite porte. Et la petite porte, ça consistait, c'était en fait apprendre la technique. Voilà. J'avais des prédispositions, paraît-il, en dessin, parce que j'ai toujours dessiné et que j'étais déjà fascinée par le portrait. Mais c'était pour moi, comment dirais-je ? Moi, j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de comprendre aussi. Et en fait, travailler d'une manière très concrète la matière, la terre et le bois, c'était aussi se confronter à quelque chose qui était, comment dirais-je... Et j'étais assez volcanique déjà à l'époque. J'étais toujours été volcanique, mais à l'époque, il y avait quand même toute cette énergie, cette sève printanière. Et donc, j'avais beaucoup... ça m'a canalisée. En ce qui me concerne, en fait... Tailler la matière, travailler la terre, cela m'a canalisé avant de m'apaiser, bien avant. Et ensuite, peut-être que l'apaisement est venu avec la confiance, parce que j'ai pris des cours pendant 10 ans, que j'ai eu un maître de sculpture qui s'appelait Jacques Gestalder, qui était issu de l'école figurative indépendante initiée par Rodin, Mayol et Bourdelle, et que quand on vient d'une transmission,
C'est toujours une histoire de transmission.
C'est ça la vie. Il y a tout. Je veux dire, les arbres ne poussent pas spontanément.
La création, c'est pas ex nihilo. Hein.
Mais exactement. J'ai toujours, une fierté et une reconnaissance, une gratitude vis-à-vis de mon maître de sculpture. Je viens d'une école classique, certes, mais j'en suis. Je suis porteuse d'une transmission. Mmh. D'un savoir et d'une responsabilité. Quand j'enseigne, je suis le relais qui fait que peut-être il y a des nouvelles générations et notre lignée remonte au XVIIe siècle, pour autant que l'on sache. Donc c'est quand même pas rien. Cela existe. On ne peut pas s'auto-engendrer en disant « voilà, je... Ben, » Mais non, on vient de... Nous venons de nos parents, de nos lignées familiales, nous venons d'une frontière, d'un pays, d'une langue, d'une religion. Après, moi j'ai, une conviction profonde qui est que, quand mon maître de sculpture me disait « penser la matière esprit », c'était ce que j'ai moi ensuite traduit au fil de mes avancées, de mes réflexions, faire descendre le spiritus dans la matière, irriguer la matière, lui donner vie. Ce n'est pas moi qui lui donne vie. Je suis un intermédiaire, donc je suis là pour raconter un peu comme un imagier du Moyen-Âge, en fait, des histoires millénaires, des histoires de tout temps.
Leur donner cette lumière intérieure.
En tout cas, essayer. Comment dirais-je ? C'est un vaste débat et un vaste sujet que de parler celui de la création. Pourquoi se mettons en chantier ? Moi, j'aime bien parler d'un chantier. Pourquoi se mettons à œuvrer ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être poussé à quelque chose qui fait que... J'ai un rapport viscéral avec la matière. Et moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport viscéral.
Et nous sommes faits de matière. De toute façon, nous sommes faits de chair et de sang.
Absolument.
Nous sommes de la matière.
Absolument. Nous sommes de la matière.
Ce serait se renier, pratiquement.
Ça serait dans un déni, en fait, quelque part, de notre finitude aussi. Mmh. C'est-à-dire que ça renvoie souvent, ça peut envoyer à la petite angoisse de mort, la petite ou la grande. Mais la mort n'est qu'un cycle. Et c'est très exactement ce que je raconte avec ces materia prima. Ouais. C'est un cycle. Et c'est un cycle du féminin. Il y a plusieurs choses qui m'ont été, qui me sont venues à l'esprit, parce qu'on est toujours irrigué et nourri de ce que l'on vit. Moi, la première chose, c'était août 90, et je suis allée à Pompéi et Herculanum. J'y suis retournée quelques années plus tard. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que je marchais, en fait, sur les pas d'une ville, d'une civilisation qui avait vécu. Et il y avait une mémoire qui était là, une mémoire architecturale, picturale, il y avait des fresques, voilà. Mais il y avait quelque chose d'assez étonnant, c'était qu'un archéologue, en fait, avait trouvé des gangues comme ça. Et en fait, ils ont percé, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur, c'était creux. Et ils ont versé du plâtre. Donc là, ça rappelle, en fait, les techniques de moulage que j'ai pratiquées. Et en cassant ces gangues, les corps sont apparus. La mémoire de ces corps, de ces gens qui ont été et qui sont, parce qu'ils sont, comment dirais-je, des témoins d'un temps, d'une civilisation. Et moi, ça m'avait absolument fait écho, puisque j'ai vraiment ce rapport dans cette temporalité, d'où je viens, qu'est-ce qui me met à l'œuvre, en fait, et surtout dans la sculpture.
Et ne pas oublier.
Alors ça, c'est le problème de l'espèce humaine. Ouais. Tendance à avoir des grosses amnésies, quand même. Mais bon.
Souvent, il est important de nommer aussi, de rappeler les noms.
Exactement.
De dire.
Exactement. Mais c'est exactement ça. Et c'est ce que je fais d'une certaine manière dans la matière. C'est-à-dire que, comment dirais-je, les materia prima sont... J'avais travaillé une série il y a un bon paquet d'années qui s'appelait « Ne le pas ». Et c'était sur le thème du non-dit et du traumatisme. C'est-à-dire que, fut un temps, j'ai été art thérapeute et j'ai travaillé en tant qu'art thérapeute. Et l'art thérapie, c'est en fait donner corps à l'indicible. C'est pour symboliser, pour mettre du signifiant, pour mettre du sens, en fait, quand il n'y a pas l'accès à la verbalisation, donc à suffisamment de conscientisation qui amène à cette verbalisation, en fait, il faut peut-être travailler avec d'autres outils, d'où l'écriture, la musique, l'équithérapie, la matière, la terre, etc. Voilà. Et quand on dit la matière, l'âme a un tiers. S'il y a un tiers d'âme, il y a deux tiers de quoi ?
J'y avais jamais pensé.
Je vais être très honnête, ce n'est pas de moi, c'est de quelqu'un que je suis depuis quelques années qui s'appelle Patrick Burensteinas.
Depuis quelque temps, Sandrine Foller explore le corps féminin dans tous ses états, toutes ses dimensions, de la naissance et peut-être même avant, et jusqu'à la mort et au-delà sans doute. Un travail qui a donné vie à une série de sculptures qui sont exposées sur la scène de l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines lors du concert du 5 juillet et qu'elle a appelé Materia Prima, corps mémoire.
Les Materia Prima, en fait, elles sont en ligne directe, mais ça, je m'en suis rendu compte après avoir revu des œuvres que j'avais faites sur Ne le pas. Ne le pas, c'était donc une contraction, j'aime beaucoup cette idée, une contraction de ne le dis pas. C'était sur le thème du secret de famille, c'est-à-dire le non-dit, le traumatisme aussi, qui peut amener ce traumatisme et aussi parfois une somatisation, car quand cela n'est pas dit, cela n'existe pas. Donc il y a quelque chose qui est encrypté dans la mémoire. On n'a pas accès à cette mémoire-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc elle va s'exprimer, elle va raconter quelque chose. La somatisation, un des effets, par exemple. Et puis, il peut y avoir aussi des comportements, etc. Des comportements inadéquats ou même carrément destructeurs, autodestructeurs. Bien. Donc moi, j'avais fait cette série-là et je l'avais travaillée pendant, 7-8 ans, cette série, qui a donné lieu à une centaine de peintures qui sont rangées, là, quelque part. Et en fait, j'avais revisité, en fait, par le biais de pseudo-dessins d'enfants, en fait. À l'époque, j'avais réalisé aussi des toutes petites sculptures avec une connaissance psy, qui, en fait, psychologue, qui faisait une formation à l'époque en hypnose. Et elle cherchait à l'époque des cobayes. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, puisque j'avais moi-même, en fait, fut un temps, fait de l'hypnothérapie, en tant que patiente. Donc, je me dis, ah, tiens, pourquoi pas. Et à l'époque, comme j'étais encore art-thérapeute, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passerait si, en fait, on utilisait le médium terre, hypnose, est-ce qu'il se passe quelque chose ? C'était ça, en fait. Je ne savais pas, donc je me suis dit, je vais être mon propre cobaye, comme ça, on va voir un peu ce qui se passe. Et donc, on a fait 3 ou 4 séances, et là, ça a été un truc incroyable. Au contact de la terre, on est sur du souple, on est sur de l'humide. C'est ce qu'on appelle en sculpture l'art du modelage. C'est l'art de la sculpture par adjonction de matière. On travaille l'argile, qui est la terre, donc de la terre souple, et on est dans l'humide, car pour l'hydrater, on met de l'eau. Donc c'est un rapport au monde. Donc il y a quelque chose de très introspectif. On utilise d'ailleurs l'argile
pour des masques,
mais aussi avec des emplâtres, etc. Ouais. Donc il y a quelque chose de très intéressant aussi qui se passe au niveau de l'argile et du contact avec l'argile. Et un sculpteur, la sculpture, en fait, il y a comment dirais-je, un tronc commun, la sculpture. Et après, il y a deux rapports au monde. Le modelage, qui est la sculpture par adjonction de matière, c'est l'art d'ajouter la matière juste ce qu'il faut, là où il faut. C'est là où on dit penser la matière. Et on travaille essentiellement, enfin moi je viens de cette école-là, avec des colombins qui sont des boudins de terre. C'est-à-dire qu'on dessine en volume. Et puis ensuite, nous avons la taille. C'est la sculpture par suppression de matière. Et là, on travaille la résistance, le dur, le sec. Bois, pierre. Mais quand j'étais intermittente du spectacle à l'Opéra de Paris dans les années 90, on taillait le polystyrène. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une résistance au matériau. Au grand jamais, on part d'un bloc de terre et on creuse comme une taupe. C'est un non-sens absolu. C'est ce qui fait que, par exemple, vous aviez des sculpteurs comme Rodin. Rodin était un sculpteur modeleur et tailleur. Il taillait le marbre, mais il travaillait la terre, tous les bronzes, l'âge des reins, le penseur, etc. Là, c'était l'art du modelage. Et moi, je suis un sculpteur figuratif. Ce qui m'intéresse, en fait, et j'ai une réflexion depuis donc très longtemps.
Et sur le corps.
Le corps, la tête et le corps. D'ailleurs, il y a quelques années, ça avait donné lieu en fait à une conférence au Centre culturel des Mazades, où j'avais proposé en fait, une réflexion sur la tête et le corps. Et d'ailleurs, c'est ma réflexion, mes réflexions sont essentiellement tournées justement sur cette histoire d'incarnation, ce grand mystère. cette étrange chose que ce corps. Et donc, évidemment, on a une enveloppe corporelle et nous sommes. Et c'est vrai que, comment dirais-je, ma réflexion porte sur la pulsion de vie, Eros et Thanatos. Et ça prend après des couleurs différentes en dessin, peinture et sculpture. Et donc, depuis quelques années, les Materia Prima sont nées de cette réflexion. Donc, Herculanum, Pompéi. Elles sont nées aussi. De réflexion, liées aux coupes.
Elles ont des noms ?
Pas du tout. Elles n'ont pas de nom. Elles sont toutes des materia prima. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont toutes individuellement et collectivement, en fait. Et je fonctionne beaucoup par imprégnation et par rencontre. Mon obsession du portrait et des corps aussi, c'est comme quand j'ai réalisé pendant en un an 388 portraits sur le thème des réseaux sociaux, c'était en 2009-2010, mais j'étais la seule folle furieuse qui a invité des personnes en fait à venir poser et déposer leurs paroles, leur vécu, leur histoire. Donc moi je collecte.
Donc, c'est vraiment l'incarnation.
Giacometti disait que lui, il avait, avec son accent italien, il disait « j'ai une manie », et voilà, la manuelle. Ouais. Et moi, j'ai une manie, en fait. C'est plus qu'une manie, je ne vais pas dire que c'est une obsession, mais comment dirais-je, je suis face à ce grand mystère absolu. Alors, ça me questionne. Alors, j'ai des tas de petites portes d'accès, je tente des choses, etc., y compris dans la matière, en dessin, peinture et sculpture. Et donc, les materia prima, en fait, elles étaient en cours. Elles étaient dans la lignée de Ne le pas, cette série que j'avais travaillée en peinture. Et Julien, en fait, est venu poser en sculpture.
Julien Martineau, mandoliniste et directeur artistique du Festival de Toulouse, dans le cadre duquel sera donné ce concert performance créatrice.
En dessin et en peinture. Et d'ailleurs, je ne désespère pas un jour de réaliser son portrait grandeur nature. Ça, c'est parce que je portraite depuis très longtemps. Et ma joie, mon bonheur, c'est de réaliser des portraits grandeur nature. Et ce que j'aime, mais viscéralement, c'est de rencontrer la personne qui pose, d'être dans ce rapport, j'allais dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une intimité. Oui, j'en ai besoin parce que qui est cet autre ? Et si je ne l'ai pas là incarné avec, comment dirais-je, à chaque fois, les gens sont très étonnés parce que quand ils viennent poser, en fait, ils me disent « Mais c'est bizarre, parce que tu me poses des questions, je ne suis pas obligée d'être statufiée. » Je dis « Mais non, moi, ce qui m'inspire, c'est les expressions, le regard, le vécu. C'est de la nourriture, moi. C'est une nourriture que je mets dans...
Pour donner cette âme.
C'est la chair du vivant. Et moi, c'est ça qui me bouleverse. Enfin, je veux dire, tout mon parcours, en fait, est un parcours fait de tissage, de rencontres, d'échanges, de partages, qu'on se revoit ou pas.
Il y a eu un moment de vérité, je ne sais
mais
pas.
Si. Mais si, vérité, ah, si. Oui, merci, c'est très exact. Il y a la seule vérité possible, n'est pas la vérité, cette espèce de grand concept qui, moi, m'écrase, hein, personnellement. Je trouve ça trop vaste, c'est même limite effrayant, c'est très angoissant. La vérité, la liberté. Je pense que nous sommes des êtres, l'espèce humaine, nous sommes, comme toutes les espèces d'ailleurs, nous sommes des êtres limités et qu'il faut peut-être avoir cette conscience dans l'humilité de dire oui, je sais que je suis humilité, mais je vais essayer de faire donner ma part à ce monde, modestement.
Et votre lien avec la musique ?
Mais c'est ma joie, depuis que je suis gamine. Eh bien, parce que, tout simplement, dans ma famille, on écoutait de la musique. Chez mes grands-parents, c'était, comment s'appelait-il, Garo Gori, Georges Brassens.
Georges Brassens, voilà.
Voilà. Et chez mes parents, alors, les quatre saisons de Vivaldi, mais Mort Schumann, Barbara, il y avait les Bee Gees aussi, enfin voilà. La musique...
Très éclectique,
très éclectique, mais ça fait partie de mon ADN. Mmh. Et puis en Bretagne, on avait les Vechnoses et les danses. Et il y a quelques années, Philippe Tribault, qui a été un élève de l'atelier et qui est violoncelliste à l'Orchestre National du Capitole, et donc sa femme, Sandrine Tilly, flûtiste, donc sont venus poser. Et puis ça a donné lieu en fait à un début de quelque chose qui était des portraits des musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Et certains m'ont fait la joie de venir poser. Et là, moi, c'était du bonheur. D'abord, parce que venir les dessiner avec le chef d'orchestre, j'ai essayé de comprendre, de donner, c'est quoi la musique, qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, en termes de vibration et d'énergie. Et j'ai essayé, en fait, de traduire ça alors, par les portraits, parce que c'était ma porte d'entrée. Les gestes, le mouvement. Mais c'est j'ai fait tout de suite un lien entre le mouvement que j'ai quand je dessine ou quand je sculpte. Et le mouvement, alors après, chaque instrument invite, en fait, à une corporalité, à un mouvement. Il y a quelque chose de très intime aussi entre le musicien et son instrument. Et donc, ça a démarré comme ça, voilà. Et puis, il y a 2 ans et demi, 3 ans, les Clés de Saint-Pierre, ont fait appel à moi. C'est Florence Fourcassier, qui est flûtiste, et qui m'a proposé le cadeau. Mais le cadeau qui était, en fait, de dessiner, en live, donc une performance dessinée, pendant le temps d'un concert avec un quintet de musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Et là, je me suis dit, mais c'est ça ? Mais évidemment. Donc, à l'époque, je faisais performance dessinée. Mmh. Et puis, l'année dernière, j'ai été invitée par le directeur artistique Jean-Sébastien Borsarello. Donc, ils ont un très, très joli festival en Aveyron qui s'appelle Balade Musicale, qui est un vrai bijou. Et là, recadeau. Mais la vie est merveilleuse. Dans une église, mon bonheur. C'était un moment de communion. Et là, pareil, performance en dessin. Mm-hmm. C'était à Montrosier, un charmant village en Aveyron. Je vais être très honnête, moi, vous me mettez dans un endroit aussi serein et plein qu'un lieu comme moi, je vois les églises comme des ventres matriciels. Quand vous avez des jolis lieux avec des musiciens de talent qui vous emmènent dans des endroits comme ça, mais moi, je voyage. Mon âme s'envole, c'est le bonheur. Et moi, ça, c'est ma joie.
Transcendé par la beauté.
Ah, mais c'est vrai que c'est ça me, là, je suis, vous voyez, je suis émue, mais parce que c'est ma joie, en fait. C'est une joie, et c'est une joie partagée. Et là, cette année, merci Julien Martineau, donc créatrice, donc Clara Danchin, violoniste, et Anna Jbanova, pianiste. Et donc, elles ont sorti un album qui s'appelle Créatrice, qui fait la part belle aux compositrices. Et c'était tellement évident. C'est tellement entré en résidence. Et, en résidence. Oh, c'est extraordinaire, ça. C'est, oui, on a fait résidence, d'ailleurs. Il y a eu des répétitions.
En résonance.
Et en résonance. Donc, voilà. Et on va inviter, en fait, nous invitons le public avec ce trio, un ternaire. À venir, en fait, à venir vivre cette expérience de communion.
Et ce sera, je vous le rappelle, le mercredi 5 juin à 21h à Toulouse, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines.